Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Académie. Ici, vous le savez, chaque jour, on choisit de mettre en avant des initiatives françaises qui démarrent ou qui sont encore à l'état de projet pour leur donner une chance supplémentaire d'y parvenir. Pour ça, une équipe m'entoure. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Ainsi que nos experts qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est Marie-Éloi qui est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Fondatrice du réseau Bouge ta boîte et à vos côtés, Jean-David Chamboredon, bonjour.
Bonjour.
Président du fonds d'investissement Isaïe, merci à tous les trois d'être là. Je vous présente face à nous Mathilde Roussel, bienvenue sur Europe 1, bonjour.
Merci, bonjour.
Vous avez 23 ans Mathilde et vous avez fondé Ma Boîte Repart, des lunchbox réutilisables qui permettent en fait aux utilisateurs de réduire leurs déchets, un système qui commence, hein, c'est vrai, à se répandre en France. On vous écoute sur votre projet, vous avez 1 minute 30.
Merci. Alors comme certains d'entre vous peut-être, il m'arrive de commander à manger via des services de livraison de plats préparés. Et à la fin de mon repas, je me retrouve toujours devant toute une quantité de déchets plus ou moins recyclables. Et je me rends bien compte à travers cet usage qu'on ne se remplit pas seulement l'estomac, on remplit aussi la poubelle. Et aujourd'hui, la livraison de plats préparés, rien qu'à Paris, on parle de dizaines de milliers de repas par jour. Et on parle d'emballages qui ont parfois une durée d'utilisation de quelques heures entre le moment où la commande est préparée et le moment où il termine à la poubelle. Alors avec Ma Boîte Repart, je veux permettre aux gens de continuer à commander des repas, mais tout en réduisant leurs déchets. Donc l'idée, c'est de venir proposer au service de livraison de plats préparés un service incluant trois choses. Une mise à disposition de boîtes repas réutilisables et consignées, une installation de points de collecte au plus proche du consommateur, donc dans son entreprise, son espace de coworking, son université, afin de faciliter le rendu et la collecte des boîtes. Et enfin, un processus de nettoyage et remise en circuit des boîtes repas pour qu'elles soient ensuite réutilisées. Donc Ma Boîte Repart, c'est un service en B2B2C dont le besoin a été validé auprès de différentes parties prenantes suite à une enquête terrain là, de plusieurs mois. Et aujourd'hui, je cherche à tester la solution, donc à réaliser une preuve de concept en collaboration avec un distributeur de plats préparés.
Voilà pour l'explication du projet, parce qu'on est sur un projet, hein, ça n'a pas encore démarré. On va se tourner vers nos experts, Marie, Jean-David, des questions ou des remarques pour Mathilde ?
Déjà bravo, parce que c'est un pitch très clair qui donne envie, on a envie d'y aller. C'est Merci. Clairement un marché porteur, parce qu'on en a marre d'être complice de tous ces déchets qui s'accumulent à chaque fois qu'on commande un repas pour nos collaborateurs ou pour nous-mêmes. Donc effectivement, il faut y aller. Je voulais savoir quel est le coût par rapport à une lunchbox classique, sachant qu'il doit y avoir sûrement beaucoup de manipulations pour porter les lunchbox chez les restaurateurs, les nettoyer, les stériliser, etc.
Oui, alors en effet, ça implique du transport et un nettoyage en plus. Mais il faut savoir qu'actuellement, et c'est un chiffre que je tiens d'un distributeur de plats préparés, certains de leurs emballages leur coûtent 2,50€ pièce parce qu'on passe sur des nouveaux matériaux. Il y a du bambou, du recyclable, etc. Donc en fait, mis bout à bout, on peut s'y retrouver avec de la réutilisation, un contenant qui va faire 100 réutilisations. On s'y retrouve en fait en termes de coûts.
Parce que vous avez chiffré ce coût, elle coûterait combien votre lunchbox si demain elle peut démarrer ?
Donc ce serait gratuit pour le consommateur final, donc pour celui qui commande, en plus bien sûr de la consigne.
Ce serait à la charge du restaurateur ?
C'est ça, en fait ce serait le restaurateur, donc le distributeur qui paierait pour que ces lunchbox soient mises à disposition des consommateurs.
Jean-David ?
Également bravo pour le pitch, parce que c'était super clair,
j'étais
moins sûr du modèle en entrant dans le studio. La question sur le coût, elle est quand même assez fondamentale, parce qu'on est dans un business, la food tech au sens large, où les marges sont toutes petites. Mm-hmm. Les coûts, notamment de logistique, peuvent être très élevés en rapport de ce que les gens vont finalement manger. Mm-hmm. Vous êtes certain d'arriver à un modèle où le surcoût ne décourage pas le consommateur ?
Alors, quoi qu'il arrive, donc, j'ai à cœur à ce que ce ne soit pas le consommateur final qui paye.
Oui, ça, c'est, ouais. si le distributeur décide d'inclure les choses parce que le prix ne fonctionne pas, mm-hmm. finalement, c'est le consommateur qui paiera. Donc,
le restaurateur va répercuter sur le consommateur.
Notamment l'aspect logistique, le fait de retirer les lunchbox, etc., après le repas, etc. Vous avez mesuré vraiment combien ça coûte ?
Alors, ce sera à vérifier, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé de test. Donc, bien sûr, je ne peux pas de donner de réponse précise. Mais voilà, quoi qu'il arrive, en termes de modèle économique, il y aura un système donc, d'abonnement payé par le restaurateur qui souhaite bénéficier du système. Et puis, il y aura aussi, du côté des entreprises, un financement voilà, de l'installation du point de collecte s'ils veulent mettre ce service à disposition de leurs collaborateurs et leur permettre de réduire leurs déchets.
Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour tester à grandeur nature, si j'ose dire? Vous cherchez une entreprise qui puisse collaborer avec vous, une chaîne de restauration?
Alors tout d'abord, je cherche un distributeur avec qui je pourrais collaborer, co-construire cette solution. Donc ça impliquera voilà, sûrement que de démarcher une entreprise dans laquelle il y a un certain regroupement de consommateurs qui soit prêt voilà, à tester durant un mois, par exemple, la solution. Et en plus de ça, en termes de logistique, bien sûr, il me faut des lunchbox, voilà, des coursiers à vélo pour le transport et un processus de lavage. J'ai déjà des pistes bien engagées pour pouvoir construire tout ça, mais je suis toujours preneuse de solutions voilà, à ce niveau-là.
Marie.
Oui, on voit que vous êtes vraiment au début du projet, qui est prometteur, mais qui est au début est vraiment la clé de votre projet, ça sera le coût. Le coût final,
j'imagine.
C'est ça qu'il faut bosser à fond, le prévisionnel financier. Ouais.
Complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut essayer de trouver un twist qui fasse que soit le distributeur, soit le consommateur se disent c'est peut-être un peu plus cher, mais il y a une vraie raison pour laquelle c'est un petit peu plus cher. Parce que j'ai du mal à voir comment les choses pourraient être neutres du point de vue du coût pour le consommateur final. Donc, essayer de trouver un incentive, quelque chose, peut-être que de gagner des points, j'en sais rien.
C'est ça, oui, un système de fidélité.
Mais trouver un moyen de faire que le petit surcoût que vous allez forcément mettre dans la machine, il trouve sa contrepartie pour le consommateur ou pour le décideur entreprise qui va adopter ce système plutôt qu'un autre.
Oui, bien sûr.
Mathilde, vous dites ce sera sûrement en verre, ça reste à définir, et ce sera du Made in France.
Bien sûr, oui. Le verre, ça reste à définir. En effet, il n'y a pas de matériau idéal si on veut quelque chose d'inerte, qui s'adapte à du transport à vélo et qui soit recyclable. Mais ce sera du Made in France et si possible, upcyclé, etc.
Maude ?
Oui, une petite question. On voit que le secteur alimentaire essaie aussi de trouver des solutions, notamment sur le biodégradable, etc. Est-ce que vous êtes sûre qu'il y aura une place pour vous et de ne pas vous faire grappiller justement ce marché par tous les nouveaux matériaux qui vont être très légers et qui vont pouvoir être recyclés très facilement ?
Oui, alors déjà, je suis convaincue que les nouveaux matériaux ne sont pas forcément une solution à long terme parce qu'on parle de... On parle de matériaux qui sont par exemple compostables mais qui ne se retrouvent pas dans la bonne poubelle, donc au final ne sont pas compostés. Et on est toujours quand même sur du jetable, donc il y a toujours du gâchis de matériaux et d'énergie. Donc je suis convaincue que voilà, en informant aussi sur l'intérêt de la consigne et du réutilisable, peut y avoir une place à ce niveau-là.
Merci beaucoup pour cette présentation de ma boîte repart, hein, puisque effectivement c'est l'idée. Vous nous tenez au courant de votre projet
avec
et de son
plaisir.
État d'avancement.
Merci.
Et si on s'habillait Made in France, c'est possible grâce à une toute nouvelle marque, les jupons de Louison. A tout de suite.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
La France Bouge Académie, c'est votre rendez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur, que vous souhaitez nous parler de votre projet, c'est simple, hein, vous nous rejoignez sur Europe 1 en nous écrivant par mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr. Raphaël, comme l'a fait Marine. Bonjour Marine Montloubouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 29 ans et vous êtes la fondatrice des Jupons de Louison. Vous fabriquez intégralement en France des jupes et des robes demi-mesure, je précise, et vous allez nous expliquer ce que ça signifie. Pourquoi ce choix et surtout comment vous comptez vous développer? Vous avez bien sûr 1 minute 30.
Merci beaucoup. Alors j'ai toujours voulu influer sur le cours des choses, donc après une école de commerce et un MBA, je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat en juillet 2018 pour créer les Jupons Louison. Autour en fait de différentes valeurs et d'engagement. Je voulais vraiment que ça soit fort. Je souhaite aider en fait la femme, le plaisir de la femme, valoriser la femme pardon, et le Made in France. Donc du coup, nous produisons des jupes et des robes demi-mesure, intégralement confectionnées en France. Donc soit par un atelier qui est situé à côté de La Rochelle, qui nous fait nos pièces les plus compliquées, ou sinon par des couturières indépendantes qui font les pièces en édition limitée et tous nos accessoires qui sont confectionnés à partir de nos chutes de tissu. On pense vraiment que nos couturières sont la pierre angulaire de notre réponse à la demande croissante de proximité, d'éthique, de qualité que tout le monde recherche à avoir à l'heure actuelle. Et vraiment, on met l'accent là-dessus et c'est vraiment grâce aux couturières qu'on avance et qu'on crée ensemble avec et les clientes et les couturières des collections chic et intemporelles, bien entendu, en toute transparence. Tous nos tissus, du coup, sont soit français, soit issus de l'économie circulaire, pour favoriser en fait la transformation de tissus.
Voilà pour le pitch, comme on dit dans le jargon. Merci beaucoup. On va se tourner tout de suite vers les experts, Jean-David et Marie. Jean-David, peut-être en premier ?
Oui, le pitch est bien, mais je suis un peu frustré parce que tu ne parles pas des clientes.
Je ne parle pas des clientes, oui, en effet.
Tu ne parles pas de leurs attentes, de pourquoi elles seraient là, pourquoi elles achèteraient. Et c'est quand même important dans une entreprise.
Exactement, ça faisait partie du pitch à la base. Ah, c'est complètement
ça, sorti. C'est le stress du direct, vous
c'est
inquiétez
ça,
pas.
Exactement. Non, nos clientes, en fait, sont vraiment... En fait, les clientes et nos couturières, c'est elles qui créent nos jupes et c'est pour ça qu'on existe. Donc on crée en fait du demi-mesure puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui étaient petites et des femmes très grandes. Et du coup forcément, les jupes du prêt-à-porter classique ne sont pas adaptées en termes de longueur à toutes les morphologies. Donc nous, on répond déjà à ça en ayant aussi des jupes voilà, avec des finitions de très grande qualité et des produits durables.
Ça veut dire que je peux faire un 40, mais avoir une jupe qui soit à la bonne longueur si j'ai de très grandes jambes par exemple.
Exactement. Donc vous pouvez en fait choisir, vous avez 4 longueurs possibles, donc 24 possibilités, et donc vous choisissez la longueur que vous préférez.
Marie ?
Je ne m'étais jamais posé la question des jupes, de la longueur des jupes, mais c'est une très bonne idée, et c'est vrai que sur le site, on peut choisir si on fait 1m60, 1m65, 1m70, donc on n'a pas besoin de calculer la longueur de ses jambes,
oui, voilà.
C'est fait automatiquement. Vous vous appuyez sur un réseau de couturières notamment ?
Oui.
Je voudrais savoir comment vous les trouvez et quel est le turnover aussi. Parce que si à chaque fois vous devez les former, les retrouver, ça prend du temps, comment ça se passe ?
Alors au départ, en fait, j'ai cherché une couturière pour m'aider parce que du coup, on avait une forte croissance. Donc c'était chouette, on avait besoin de plus qu'un atelier. Et pour pouvoir faire en fait, le demi-mesure, puisqu'on le réajuste à la demande de la cliente, on a besoin de quelqu'un sur place, sur Paris. Donc d'abord, on a mis sur gens de confiance une demande. Et en fait, j'ai eu énormément de retours. Donc là, on en a 4 qui sont fixes, qui sont en Bretagne, puisque mes parents habitent là-bas.
Ça, c'est bien. Ça va faire plaisir, Marie.
à Tours, puisque ma sœur y est, et 2 sur Paris. Donc ça évite les déplacements, ça nous permet de vraiment une proximité avec elles. Et pour l'instant, il n'y a pas de turnover, parce que je touche du bois, elles sont bien avec nous.
Et on a quelques modèles avec nous, hein, si vous voulez les voir sur Europe1.fr. Une robe demi-mesure et une jupe en lamé, c'est ça hein ?
Exactement.
Voilà, donc ce sont quelques-uns des modèles que vous créez. Vous récupérez ces tissus, notamment chez des grands couturiers, ce sont les restes de tissus, c'est ça ?
Oui, voilà. En fait, ça dépend. Soit en fait, on le fait fabriquer intégralement en France, donc dans la région lyonnaise, soit par exemple comme le coton et lin de la robe. Soit pour le plissé que j'ai sur moi ou le plissé qui est là-bas, on rachète en fait les fins de série, ça permet aussi de réinvestir en fait les tissus ont une seconde vie.
Marie, Jean-David.
Ouais, moi je vais revenir aux clients. Alors j'ai compris oui. Que c'était les petites grosses et les grandes maigres, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Comment on touche les gens ?
C'est du sur-mesure finalement.
Oui, mais c'est là qu'il y a visiblement le plus de besoins, parce que si je suis très grande avec une jupe trop courte ou trop petite avec une jupe trop longue, je comprends que le problème se pose. Comment on fait pour faire savoir à ces gens-là que vous existez ?
Ah bah déjà, je touche tout le monde au départ. Donc du coup, c'est ça qui fait que je touche les petites et les grandes.
Quelle est la stratégie marketing ?
Alors du coup, on est surtout sur les réseaux sociaux. C'est Instagram, Facebook qui fait qu'on fonctionne à l'heure actuelle. C'est aussi via les influenceuses qui parlent de nous, qui parlent du projet intégralement Made in France. Ça, c'est aussi très important à l'heure actuelle. Et le fait d'être là aujourd'hui aussi, ça permet d'avoir une plus grande visibilité.
La production est en augmentation. Vous avez, oui. Vous avez combien de clientes fidèles aujourd'hui ?
On a plus de 55% de réachats en un an. Donc, elles ont à plus de 3 jupes par personne.
Maud ?
Oui, ça coûte combien ?
Alors, les prix sont entre 70€ et 205€ pour la robe la plus chère. Donc, du Made in France accessible, puisque nous souhaitons, en fait, on pense que les gens souhaitent consommer mieux pour avoir moins de produits. Et donc, c'est aussi à nous de faire des efforts, de produire différemment pour consommer différemment.
Vous êtes en autofinancement. L'idée, ce serait d'arriver à effectuer une levée de fonds. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable sur un projet comme celui-ci, Marie, Jean-David ?
N'ayant aucun chiffre sur le nombre de clientes, le chiffre d'affaires, la croissance, etc.
Je suis incapable
de répondre. Ouais. Ça dépend aussi de l'ambition du projet. On peut très bien se dire qu'on veut faire une jolie boîte autofinancée ou au contraire être une boîte qui va se projeter à l'international dans peu de temps et qui a besoin de beaucoup d'argent pour se développer. Donc je ne peux pas répondre à la question.
Mais le but, c'est de se développer à l'international un jour, pourquoi pas. Déjà, avoir, asseoir notre crédibilité et notre visibilité en France. On vend intégralement, enfin, surtout par Internet et dans notre showroom qui a ouvert en avril, donc au métro Temple à Paris. Donc du coup, c'est comme ça qu'on commence à être visible. Et après, par la suite, oui, voilà, on veut ouvrir des boutiques à 2-3 ans, donc on a besoin d'une levée de fonds.
Vous êtes les seuls à faire ça ?
Du demi-mesure, oui, exactement. Après, en fait, on va directement tomber dans des marques haut de gamme avec du sur-mesure, comme les robes de mariée.
C'est important, c'est un facteur différenciant qui compte. Merci beaucoup, vous nous tenez au courant et vous nous donnez de vos nouvelles ici sur Europe 1.
Europe 1.
Vous ne savez pas comment gérer un moment de stress en urgence ? La solution, c'est Mon Sherpa, une appli qui vous coach depuis votre smartphone. À tout de suite.